Bonjour et bienvenue, vous écoutez Simple et Cité, le podcast pour une vie plus simple et sereine dans le monde moderne. Aujourd'hui, j'ai envie de revenir sur un sujet dont on a déjà parlé dans l'épisode 007, qui est le sujet de l'argent. Donc, j'en avais parlé comme une introduction assez générale, avec plusieurs pistes de réflexion dans le lien entre l'argent et le minimalisme. Et aujourd'hui, j'ai envie d'aller un petit peu plus en profondeur sur un aspect en particulier. L'argent fait-il le bonheur ? Peut-on être heureux avec peu de moyens ? Et est-ce que gagner plus d'argent permet d'acheter du bonheur ? Et quel est le lien entre tout ça et le minimalisme ? Depuis que je m'intéresse au minimalisme et que je remets en question mes habitudes d'achat, j'ai remarqué qu'une chose revient très souvent dans la société de consommation, la promesse de bonheur par l'achat de choses. Donc par exemple, une pub pour du soda vous dit d'ouvrir du bonheur. De manière plus ou moins détournée, on nous fait croire finalement que nous ne sommes qu'à une voiture, un smartphone, une boîte de céréales ou un manteau du bonheur. A l'inverse, on nous dit du coup qu'il faut travailler et avoir comme objectif de gagner toujours plus d'argent pour pouvoir le dépenser et acheter tous ces objets qui nous rendront heureux. Mais une chose que j'ai appris grâce au minimalisme, c'est que l'argent ne garantit pas le bonheur. L'argent permet d'acheter des objets ou des expériences, mais il ne fait pas disparaître nos émotions négatives ou désagréables que l'on est amené à vivre en tant qu'être humain, quoi qu'il arrive. Du coup, dans cette émission, je propose de discuter plus en profondeur de la question de l'argent et du bonheur, et de ce que le minimalisme m'a apporté autour de tous ces sujets. Commençons par un mythe bien répandu dans la littérature minimaliste, qui est l'idée que les expériences seraient une meilleure dépense financière que les objets matériels. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? D'après Sonia Lyubomirsky, qui est professeure dans le domaine de la psychologie positive, la réponse serait « vrai, mais ». D'après ses recherches, les expériences rendent effectivement plus heureux que les choses pour trois raisons. La première raison, c'est qu'on se compare moins facilement avec des expériences qu'avec des objets. Par exemple, on va moins facilement comparer deux concerts, un concert que je suis allée voir et un concert que ma copine est allée voir, ça va être difficilement comparable. Alors que si je veux comparer mon smartphone avec le smartphone de ma copine, on va tout de suite pouvoir comparer les qualités de l'objet, lequel est le plus cher, lequel est le plus performant, lequel est le plus beau, etc. etc. La deuxième chose, c'est qu'on se souvient davantage des expériences que de l'acte d'achat d'un objet. Par exemple, vous allez vous souvenir de vacances que vous avez passées des années après, ou de super soirées entre amis, ou d'expériences exceptionnelles, alors que, est-ce que vous vous souvenez du téléphone que vous aviez il y a 5 ans, et quand est-ce que vous l'avez acheté ce téléphone, voyez ? Enfin, troisième chose, les expériences apportent des dimensions que n'apportent pas les objets. C'est-à-dire que les expériences permettent de l'apprentissage, un tissage de liens sociaux, de la créativité, etc., etc. Mais, et c'est là qu'il y a le vrai mais de Sonia Lyubomirsky, c'est qu'elle dit qu'on peut tirer ces bénéfices que je viens de vous citer sur les expériences par rapport aux objets en dépensant son argent dans des objets à condition d'utiliser ces objets comme des expériences. Et alors un exemple qui est très parlant que donne Gretchen Rubin dans le podcast qui s'appelle Happier, elle donnait l'exemple d'une table de salle à manger. Donc une table de salle à manger avec 6 chaises, c'est un objet, c'est une table. Voilà. Et vous n'allez pas forcément vous souvenir d'avoir acheté votre table de salle à manger. Par contre, cette table peut vous rendre heureux si elle vous permet d'inviter de la famille ou des amis à manger régulièrement à la maison. C'est-à-dire qu'elle permet une expérience, donc l'expérience d'un dîner et d'une connexion sociale chez vous jusqu'à 6 personnes, qui vous aurait été impossible ou beaucoup plus difficile si vous n'aviez pas cette table de salle à manger. Et c'est pareil avec l'exemple d'objets qui permettent des loisirs. Par exemple, si vous achetez des pinceaux et de la peinture, c'est pas forcément le fait d'acheter les pinceaux et la peinture qui vous rendent heureux, mais tous les moments où vous allez peindre grâce à ces objets que vous avez achetés. C'est la même chose pour si vous achetez des baskets pour aller courir entre copains, ou alors pour les objets culturels, si vous achetez des livres, des jeux vidéo, ce genre de choses-là que vous allez ensuite utiliser, que vous allez consommer entre guillemets en tant qu'objet culturel. Et je pense qu'il est possible d'étendre ce raisonnement-là à des objets où le lien avec l'expérience est moins évident. Donc je vous donnais l'exemple de la table de salle à manger, mais par exemple, vous pouvez tout à fait prendre plaisir à l'achat d'un nouveau smartphone si c'est un smartphone qui vous permet d'avoir des expériences que vous ne pouviez pas faire avec votre téléphone précédent. Moi, par exemple, mon smartphone, il me permet de méditer, de faire du sport en 7 minutes le matin, de prendre des photos, de faire preuve de créativité avec des applications de journal, par exemple. Donc, c'est pas forcément l'achat du téléphone en lui-même qui va me rendre heureuse, mais c'est le fait de l'utiliser comme une expérience. Donc, par rapport à la question « est-ce que c'est mieux d'acheter des expériences ou des objets ?», je vous dirais que finalement, l'important, c'est pas forcément ce que vous achetez, mais ce que vous en faisiez après ce que vous en faites, pardon, après l'achat. Donc, si vous achetez des objets et que ce sont des objets qui vous permettent de vivre de belles expériences qui vous rendent plus heureux, et bien dans ces cas-là, cet achat d'objets vous aura rendu plus heureux. Je terminerai cette réflexion en vous rappelant quelque chose que dit Chelsea dans la chaîne The Financial Diet, c'est que dans certains cas, pour la paix de l'esprit, la meilleure chose à faire est de dépenser votre argent ni dans les objets, ni dans les expériences. Par exemple, mettons que vous n'avez pas 100 euros à dépenser, vous n'avez pas les moyens. Eh bien, vous ressentirez exactement le même stress à l'idée d'être à découvert que vous ayez dépensé 100 euros dans une robe ou que vous l'ayez dépensé dans des places de concert. C'est la même chose. Du coup, le conseil qu'elle donne et que du coup je vous donne à mon tour, c'est que si vous n'avez pas les moyens, vous n'achetez ni des objets ni des expériences. Vous ne dépensez pas l'argent que vous n'avez pas. Voilà, bon, ça paraît évident, mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous rentrez dans un mode de vie plus minimaliste, l'idée, ça va pas être de remplacer les objets par des expériences en vous disant « bah ça y est, je suis minimaliste parce que j'ai dépensé mon argent dans une place de concert plutôt que dans un jean ». Mais en fait, c'est pas le fait d'avoir dépensé de l'argent dans une expérience ou dans un objet qui fait que vous avez un mode de vie minimaliste ou pas. C'est l'état d'esprit que vous avez par rapport à cette dépense. C'est-à-dire que mettons que vous avez passé une mauvaise journée, que vous avez des émotions négatives à l'intérieur de vous, si vous essayez d'apaiser ces émotions en achetant un jean, ou si vous essayez d'apaiser ces émotions en achetant une place de concert, c'est exactement le même processus mental. Et du coup, vous restez dans cet état d'esprit de la société de consommation qui nous fait croire qu'en consommant, qu'en dépensant notre argent, on va être plus heureux. Mais en fait, c'est pas le fait de dépenser son argent qui rend plus heureux, c'est le fait de vivre des expériences en tant qu'être humain dans notre journée. Donc il y a des expériences effectivement qui s'achètent telles quelles, vous allez acheter des billets de concert, vous allez acheter une expérience. Vous pouvez acheter des objets qui permettent une expérience, donc vous achetez une table de salle à manger pour pouvoir faire des dîners avec des copains, et puis vous pouvez aussi vivre des expériences qui sont complètement gratuites. Et par exemple, si vous avez passé une mauvaise journée, vous pouvez tout à fait faire l'expérience de vous faire un bon thé bien chaud, d'en parler avec vos amis ou votre conjoint, votre conjointe, de vous allumer une petite bougie sympa, de vous faire un bain si vous avez une baignoire, ou peu importe, ou vous lire un bon bouquin si c'est ça qui vous fait plaisir. Donc en gros, je terminerai cette partie autour de la question des expériences en disant que dépenser votre argent ne garantit pas le bonheur. Et ce, quelle que soit la chose dans laquelle vous dépensez votre argent, que ce soit un objet ou une expérience. La deuxième question que je souhaite aborder dans cette émission autour de l'argent et du bonheur, c'est finalement la question miroir, la question inverse. Est-ce que l'absence d'argent rend malheureux? Donc je vais citer encore une fois la recherche de Sonia Lyubomirsky sur le sujet. Donc apparemment, les études scientifiques qu'elle cite dans le livre où elle parle de tout ça, qui s'appelle « Qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux ?», je vous en reparlerai dans les ressources un peu plus tard dans l'émission, elle explique que les études scientifiques donnent des résultats assez divers sur la corrélation entre l'argent et le bonheur, mais il y a quelques conclusions qui sont quand même communes à toutes ces études-là. La première de ces conclusions, c'est que, bien évidemment, et là je vais enfoncer une porte ouverte, mais quand on est sous le seuil de pauvreté et qu'on manque d'argent pour combler nos besoins de base, évidemment que ça nuit à notre bonheur. Et ne serait-ce que parce qu'on vit dans des logements plus petits, moins salubres, peut-être dans des quartiers plus dangereux, ou plus loin du lieu de travail, peut-être parce qu'on a moins de sécurité niveau santé ou en cas d'accident. Ce qui est d'autant plus vrai dans des pays comme les États-Unis où il n'existe aucune assurance chômage, aucune sécurité sociale publique. Cela dit, dans ces circonstances-là, ce qui nuit au bonheur, c'est le stress et la peur de tout perdre. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de fonds d'urgence, si vous n'avez pas d'assurance maladie, si vous ne savez pas, vous vivez au jour le jour et que vous ne savez pas si vous allez pouvoir vous nourrir ou nourrir vos enfants le mois prochain, tout peut basculer du jour au lendemain et c'est une source d'anxiété incroyable. C'est comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête et c'est ça qui nuit au bonheur. Sans compter évidemment les soucis concrets quand il s'agit de payer les factures, de contracter un prêt pour pouvoir payer ce qu'il faut payer, etc. Donc dans cet état d'esprit-là, évidemment que l'argent achète une certaine sérénité et une certaine sécurité matérielle qui participe au bonheur. Cela étant, vivre de manière aisée n'augmente pas forcément le bonheur une fois cette sécurité matérielle assurée. En fait, on s'habitue très vite à la situation matérielle que l'on a actuellement, qu'elle soit correcte, confortable, aisée ou carrément hyper riche. Et en fait, on se retrouve très vite insatisfait de ne pas avoir, mettons, une chambre de plus dans notre belle maison, de ne pas avoir le dernier iPhone qui vient de sortir, etc., etc. Donc tout ça, ça s'appelle l'adaptation hédonique et c'est propre à l'être humain. C'est-à-dire qu'on s'habitue très vite, on s'adapte très vite à notre environnement actuel. Donc on va très vite trouver normal le style de vie qu'on a, même si c'est un style de vie plutôt aisé, et on va vouloir avoir encore plus. Alors du coup, quel que soit notre niveau de revenu, qu'est-ce qu'on peut faire pour tirer satisfaction de l'argent qu'on a peiné à gagner, qu'on a peiné à obtenir? Si vous avez peu de moyens, c'est là que le minimalisme, et de manière plus générale l'esprit d'économie et de modération, peut vous aider à mitiger les effets négatifs du manque d'argent, et à trouver de la satisfaction malgré tout. Pourquoi? En gros, ce qui pose problème avec le manque d'argent, c'est le stress que ça cause à l'idée de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de base. Le problème n'est pas de ne pas pouvoir se payer le dernier iPhone ou de ne pas pouvoir s'entourer des objets qu'on voit dans la pub. Le problème, c'est le stress à l'idée de ne pas pouvoir payer ses factures ou de ne pas pouvoir manger à sa faim. Et ça, c'est un truc que la société de consommation tend à nous faire oublier, où on voit plein de pubs autour de nous qui nous promettent le bonheur, et peut-être que, même si vous avez peu de moyens, vous avez de quoi payer votre logement, vous avez de quoi payer votre nourriture, mais vous ressentez quand même une insatisfaction parce que vous voulez vous payer tel smartphone que vous avez vu dans le métro ou tel vêtement que vous avez vu dans tel magazine, et vous ressentez une insatisfaction, une frustration, alors que concrètement, ce n'est pas des objets dont vous avez besoin, en fait. Du coup, là où le minimalisme peut apporter un certain soulagement, c'est justement en apprenant déjà à dépenser moins et mieux, de manière à pas dépenser le peu d'argent qu'on a dans des choses qui sont finalement assez futiles, puis se rendre compte que au-delà des besoins de base, une fois qu'on a ces besoins de base couverts, qu'on s'est fait un petit fonds d'urgence, qu'on fait du mieux qu'on peut avec les moyens qu'on a pour assurer autant de sécurité que possible, qu'on n'a pas besoin de tout ce que promet la pub pour se sentir plus satisfait dans sa vie, pour se sentir plus heureux. Le principe du minimalisme, finalement, c'est d'utiliser les objets qu'on a le plus longtemps possible, d'en prendre soin, d'acheter peu, de se contenter de ce qu'on a, de ne pas acheter ce dont on n'a pas besoin et ce qu'on n'a pas les moyens de payer, de toute façon, parce qu'il n'y a rien de plus stressant que d'avoir des dettes. Et en fait, en modérant les dépenses superflues, en achetant d'occasion, en retapant soi-même des trucs, en faisant des astuces comme ça, on peut optimiser l'argent qu'on a et alléger le stress. Et se constituer peut-être un petit fonds d'urgence, ou en tout cas, mettre de côté à l'avance pour les factures du mois prochain, etc., etc. Alors là encore, vous allez peut-être me dire que j'enfonce des portes ouvertes, puisque de toute façon, quand on n'a pas les moyens, on n'a pas vraiment le choix que de faire preuve d'économie et de ne pas se payer ce qu'on aimerait pouvoir se payer. Et c'est vrai. C'est vrai que quand on n'a pas l'argent, on n'a pas le choix. Hein. Mais ce que j'aime bien avec le minimalisme, c'est que finalement, c'est un choix. C'est un engagement social, écologique, etc., etc. Ce que ça change, je pense, c'est que du coup, cette frugalité matérielle, on va dire, on peut le vivre comme une décision et non comme une contrainte. À vous de trouver votre pourquoi dans pourquoi vous avez envie de mener une vie plus minimaliste. Un pourquoi autre que « j'ai pas le choix parce que j'ai pas d'argent ». Donc par exemple, au lieu de se dire « je fais preuve d'économie parce que de toute façon, j'ai pas les moyens et j'ai pas le choix », vous pouvez relier un mode de vie minimaliste avec des valeurs que vous soutenez, par exemple. Réduire l'impact environnemental en consommant moins, en réutilisant et en achetant d'occasion, préférer les légumes locaux qui sont moins chers mais qui font marcher l'économie locale. Toutes ces choses-là, ça donne du sens à la pratique de la frugalité qui se transforme alors dans ce que Pierre Rabhi appelle la sobriété heureuse. C'est-à-dire que vous le vivez comme un choix, comme une vie qui est en accord avec vos valeurs, au lieu de le vivre comme une contrainte par votre manque de moyens. Alors évidemment, c'est pas une solution magique qui enlève tous les problèmes liés au manque d'argent, bien évidemment, hein, surtout si vos moyens sont très limités, mais peut-être que ça peut apporter un petit peu d'aide et on va dire un état d'esprit ou une perception un petit peu différente qui permet de vivre les choses de manière plus satisfaisante, d'apporter un petit peu plus de bonheur dans votre quotidien grâce au minimalisme. Ensuite, dans le cas où vous avez des moyens, et que vos finances ont atteint le seuil où vous vivez confortablement, et vous n'avez pas besoin de vous inquiéter du lendemain. Mais là aussi, vous pouvez faire quand même des choses pour améliorer votre niveau de bonheur. Et ce que vous pouvez faire à ce niveau-là, c'est d'aller contre cette fameuse adaptation hédonique et garder un lien conscient avec toutes les bonnes choses que vous apporte votre argent. Donc ça passe par le fait de consommer des expériences, évidemment, ou de faire vos achats matériels des expériences, hein, comme on en parlait en début d'émission. Un autre moyen, c'est aussi de cultiver la gratitude et l'appréciation. C'est-à-dire que prendre conscience que bah non, c'est pas si normal et acquis que ça, votre confort matériel actuel, que c'est pas si acquis que ça d'avoir un toit, de la nourriture dans le frigo, le dernier iPhone dans la poche, que c'est quelque part, que c'est super en fait, qu'il y a vraiment de quoi se réjouir d'avoir des moyens et d'avoir un certain confort matériel. Donc la gratitude et l'appréciation pour ce qu'on a, c'est une pratique qui s'exerce et que je vous invite à exercer puisque notre adaptation hédonique va rapidement tout trouver normal et dû quelque part. Donc ça fait partie du fonctionnement normal de notre cerveau et du coup si on ne pratique pas activement des choses comme la gratitude, on finit donc par trouver normal ce qui nous entoure et on finit par oublier la chance qu'on a d'avoir le niveau de confort matériel qu'on a. Enfin, je vais terminer l'émission en vous proposant de faire attention à la comparaison. Se comparer aux voisins est la meilleure manière d'être insatisfait par notre niveau actuel de revenus, et ce, quel que soit le niveau en question. Souvent, on se compare avec des gens du même milieu social, ce qui élève les attentes. Même si on a un super sac à main à 200 euros, si on le compare à celui de la collègue qui l'a payé 300, eh bien notre sac va nous paraître moins satisfaisant. Parce qu'on va comparer notre sac à main avec celui d'un milieu social équivalent qui achète des sacs à main du même genre de prix, et on va pas comparer ça avec tous les gens qui s'achètent des sacs à main à 20 euros, vous voyez. Comme le souligne encore une fois Sonia Lyubomirski, se comparer aux autres n'est jamais bénéfique pour le bonheur et la satisfaction. Du coup, que vous ayez peu de moyens ou que vous soyez plus aisé, je ne peux que vous conseiller d'éviter la comparaison avec les voisins, avec les collègues, avec les amis, avec la famille, etc. Peu importe le train de vie des autres, en fait. Ce qui importe, c'est que vous choisissiez des objets qui sont adaptés à vous, à votre mode de vie, à vos goûts, à vos valeurs, et que vous ayez l'impression de consommer d'une manière qui est en accord avec vos valeurs et avec ce que vous avez envie de faire et avec ce que vous avez envie d'être. Et à partir du moment où vous êtes en accord avec vos choix de consommation, peu importe ce qu'achètent les autres finalement. Et du coup, je pense que là aussi le minimalisme peut aider, puisque cette philosophie ramène le choix des objets à des critères internes et non externes. C'est-à-dire que si vous savez pourquoi vous avez acheté telle gamme d'objets et pas une autre, si vous avez pris le temps de le sélectionner en fonction de vos critères à vous, de vos valeurs, de vos priorités, de vos envies, etc., vous aurez peut-être plus tendance à en être satisfait, même si le voisin en a acheté un plus gros et plus cher, vous voyez ce que je veux dire. Donc contrairement à l'état d'esprit consumériste où l'objet devient un symbole de statut social, dans ma vision du minimalisme, nous achetons uniquement des objets qui ont une certaine utilité, même si c'est une utilité esthétique, ça existe, hein, et non pour montrer quoi que ce soit aux autres. Du coup, on se retrouve naturellement moins aux prises avec la comparaison. Sans surprise, pour la ressource du jour, je vais vous présenter le livre dont j'ai cité beaucoup de recherches au fil de l'émission. Ce livre s'appelle « Qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux ?» par Sonia Lyubomirski. Chercheuse en psychologie positive, elle résume de manière simple et claire les différentes recherches menées autour du bonheur en les rassemblant par thème. Donc autour de l'argent, du travail, du couple, etc., etc. Si vous ne connaissez pas, la psychologie positive, c'est une discipline scientifique qui cherche non pas à étudier les dysfonctionnements mentaux comme peut le faire la psychologie classique, mais qui cherche à étudier comment une personne en bonne santé mentale peut devenir plus heureuse, plus satisfaite, plus épanouie, etc. Donc si vous avez envie d'en savoir plus sur la psychologie positive, je vous invite à découvrir ce livre à la fois très précis et documenté et abordable à la lecture. Pour rappel, c'est « Qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux ?» par Sonia Lyubomirski. C'est tout pour l'émission d'aujourd'hui sur la relation entre l'argent et le bonheur. J'espère que vous avez apprécié votre écoute et que vous en tirez quelque chose d'utile pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire ou à passer le mot à vos amis. L'émission Simplicité est mensuelle et je dévoile le thème de la prochaine émission dans les notes de celle-ci sur le site simple-cite.com/015. Dans ces notes, vous retrouverez aussi les idées principales abordées aujourd'hui ainsi que les ressources que j'ai citées. Merci infiniment de m'avoir écouté jusque-là, je vous souhaite une excellente journée, une merveilleuse soirée et à la prochaine !